radio. Okapi. Okapi. Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Eh bien, de quoi allons-nous parler dans cette émission? Nous allons parler du journalisme d'investigation, ou le journalisme d'enquête. Comment développer ces genres journalistiques en République démocratique du Congo? On en parle tout à l'heure avec Nikèze Kibel-Bel-Oka, journaliste d'investigation et directeur du journal Les Coulisses. Nikèze Kibel, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de l'importance du vaccin contre coronavirus. Pourquoi est-il important de se faire vacciner? On en parle dans la deuxième partie d'Okapi Service à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Alain Goy, à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation de cette émission. Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, c'est jeudi Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Les violences à l'égard des femmes désignent tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques. Sur cette liste, il faut y ajouter la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté dans la vie publique ou dans la vie privée. Aussi, devons-nous nous mobiliser pour éviter et empêcher toute forme de violence à l'égard des femmes.
Ceci est un message des Nations Unies relayé par l'Agence Nationale de Lutte contre les Violences Faites à la Femme, la Jeune et Petite Fille, une structure du ministère du Genre, Famille et Enfants.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Conflits armés, fraudes minières, viols, assassinats, enlèvements, insécurités, détournement des fonds, corruption, etc. Autant des faits qui caractérisent la vie sociale en République démocratique du Congo. Cependant, ces faits sont couverts de manière superficielle par bon nombre des médias, d'après les experts. Pour ces derniers, il est plus qu'urgent de développer le journalisme d'investigation ou le journalisme d'enquête afin de dénicher les secrets bien gardés ou de tirer au clair certaines situations confuses non encore élucidées jusqu'à ces jours. C'est quoi le journalisme d'investigation? Que faire pour développer ces genres journalistiques en RDC? Que dit la loi? Quels sont les prescrits de la loi par rapport au journalisme d'investigation? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions aujourd'hui dans Okapi Service. Nous avons en ligne Nikèze Kibel-Bel-Oka, journaliste d'investigation et directeur du journal Les Coulisses. Nikèze, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody Daniel.
Nous avons également en ligne Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa, Matete, et spécialiste des questions des droits, de la presse et de la lutte pour la dépénalisation des délits de presse. Maître Charles Mouchizi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Okapi Service. Alors, Nikèze, on commence avec vous. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par journalisme d'investigation ou journalisme d'enquête?
Merci beaucoup pour comprendre le journalisme d'investigation. Il faut seulement distinguer deux sortes de journalistes, a priori. Il y a le journalisme conventionnel, ce que nous faisons, nous tous d'habitude, et les journalistes d'investigation. Le journaliste d'investigation est un processus, un grand processus par rapport au journalisme conventionnel qui souvent tourne autour des reportages. Alors, en bref, le journaliste d'investigation, c'est un journalisme d'enquête qui part de sujets d'intérêt public. Il a comme objectif de creuser, comme vous l'avez d'ailleurs si bien dit, de creuser et chercher des choses cachées au public pour les faire sortir, pour les mettre à disposition du public. Et qui a pour, résultat améliorer les conditions d'une communauté donnée à qui on a privé ses biens. Donc l'investigation, c'est pratiquement, et en un mot, c'est changer les qui, les quoi, les quand et les où en comment. Donc, dans le journalisme conventionnel, nous posons les questions qui, quand ou quoi dans la loi de W, mais toutes ces questions doivent être transformées en comment pour comprendre l'investigation. Bref, l'investigation, c'est le fait de s'étendre sur un sujet donné, de fouiller sur un sujet donné pour apporter et pour creuser, prendre les secrets et les mettre sur la place publique et pour apporter un changement.
Bien, alors Nikes, quel état des lieux vous faites du journalisme d'investigation en RDC? Est-ce qu'on peut dire que c'est un genre journalistique qui est développé?
Non, le journalisme d'investigation n'est pas développé en RDC Congo. Et cela tient de beaucoup de facteurs. Mais il faut le dire que d'abord, la Constitution nous donne toutes les clés pour mener l'investigation. Parce que quand vous lisez les articles 23 et 24 de la Constitution relatifs aux droits et libertés de la presse et la libre circulation, cela amène les journalistes, en principe, à mener des investigations. Et ces investigations, comme je l'ai dit, doivent amener au changement des mentalités. Donc, malheureusement, cela ne se fait pas parce que, comme je dis, il y a beaucoup de contingences. Nous sommes plus dans le journalisme d'accompagnement des hommes politiques, dans le journalisme des communiqués de presse. Et nous ne faisons pas l'investigation parce que aussi c'est un genre qui demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Comme je disais, c'est un processus. Mais aussi, par rapport à la loi, Maître Charles, là, il va le dire, nous avons une autre difficulté. Notre loi, la loi sur la presse, est calquée sur le code pénal, notamment les articles 74 et 75, qui font que, dans cette loi, on dit, bien que le journaliste dénonce un fait, la dénonciation, le preuve ne suffisent pas, il suffit simplement de voir l'intention de nuire. Cela aussi fait peur aux journalistes parce que la loi ne protège pas les journalistes. Dans notre code, dénoncer, donner des preuves ne suffisent pas. Le magistrat doit chercher l'intention de nuire. Et là aussi, je pense que ça décourage les journalistes.
Oui. Alors, Kibel, vous avez déjà publié plusieurs enquêtes, vous avez déjà réalisé plusieurs investigations en RDC. Retenons par exemple en 2016, vous avez publié une enquête Ituri de la guerre identitaire au pillage des mines d'or des Kilomoto par les multinationales anglo-saxonnes. En 2016, une autre enquête Djihad en RDC, un terrorisme islamiste ADF mal connu. Il y a également un autre ouvrage, une enquête djihad en RDC, exhortation, témoignage et vitalité des ADF MTM en 2019. En 2020, vous avez réalisé une enquête balkanisation de la RDC, mythes et réalités. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à réaliser toutes ces investigations? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez rencontrées dans la réalisation de ces investigations?
Bon, au départ, le journalisme d'investigation, c'est la célébration du regard, c'est-à-dire l'observation. C'est le voir, l'apologie du voir. Pour réaliser une enquête, le journaliste se fonde sur ce qu'il a observé. Ce qu'il a observé qui sort de l'ordinaire au regard de ce que vit une communauté donnée. Et par exemple, quand nous parlons de l'enquête sur Kilomoto, je suis arrivé sur le terrain, j'ai trouvé une réalité où vous avez des géologues de Kilomoto, vous avez qui sont abandonnés, qui sont devenus des creuseurs artisanaux, et vous avez à côté une société, une multinationale qui s'épanouit. Et j'ai mené des enquêtes. Et ces enquêtes ont abouti effectivement à la publication de ces résultats. Et pour, par exemple, les djihad, j'ai mené des enquêtes pour comprendre les phénomènes qui s'est passé à Beni. Et depuis plus de 10 ans, je me suis rendu compte avec des éléments de ces enquêtes, ce qui s'est passé à Beni, relevé du terrorisme islamiste. J'en ai discuté avec l'état-major général des FRDC. Une semaine avant les opérations Sokola, je leur ai fait part de mes enquêtes, ils ne m'ont pas cru. Et une année après, il y a eu des massacres qui ont commencé, et finalement, j'ai été invité au Thiès, à l'état-major, pour expliquer. Donc, il y a beaucoup de difficultés parce que l'investigation, c'est d'abord la patience, c'est d'abord aussi la rigueur, l'objectivité, mais aussi, il faut interroger les sources. Donc, il y a une panoplie de mesures qui font que vous puissiez mener ces investigations jusqu'au bout. Et nous menons l'investigation par hypothèse, c'est-à-dire nous partons des hypothèses. Nous créons une hypothèse. Par exemple, la situation, nous prenons le cas des zones minières. Nous pouvons dire la population qui vit dans ces zones souffre à cause des groupes armés, etc. Nous montons une hypothèse et nous allons disséquer l'hypothèse en étudiant partie par partie, ce qui va nous pousser à aller vers les sources. Interroger les sources 2, 3, 4, 5 fois, c'est familiariser aussi avec les sources pour voir si vous n'êtes pas manipulé. Effectivement, il y a beaucoup de difficultés. Je me rappelle qu'en 2014, j'ai mené des enquêtes sur la filière du bois, la fraude du bois. J'ai été traduit en justice. Et j'ai été condamné en première instance et en deuxième instance, j'ai eu la vie sauf parce que j'ai finalement trouvé que le magistrat et celui qui avait porté plainte étaient à la fête. J'ai pris des photos, j'ai envoyé au procureur général de la République, oui. Et voilà, l'affaire a été classée sans suite. Donc il y a beaucoup de difficultés, il faut avoir des nerfs solides pour y arriver. Bien sûr, petit à petit, nous pouvons énumérer certaines autres difficultés.
Bien. Maître Charles Mouchizi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la loi congolaise pose, disons, le cadre légal permet aujourd'hui aux journalistes de bien travailler calmement dans ces genres journalistiques appelés journalisme d'enquête?
Par rapport au journalisme d'investigation, peut-être pas de manière précise, mais de manière générale, la Constitution pose le principe selon lequel toute personne a droit à l'information. Et lorsqu'on parle de l'information, il ne s'agit pas seulement de l'information protocolaire, il s'agit d'une information véridique, vérifiable, qui peut aider tout citoyen à conjuguer justement avec le vœu de constituant.
Allô, maître ? Voilà, il y a une coupure. Maître Charles n'est plus en ligne, on va tenter de le rappeler. Nous parlons du journalisme d'investigation, on va le rappeler tout à l'heure. Nous poursuivons avec vous, Nikès. D'après certaines informations reçues, les journalistes qui se lancent, qui osent se lancer dans ce genre, font l'objet des menaces, des morts, des intimidations et autres. Je pense que vous avez aussi subi ce genre de choses. Nikès, vous êtes là?
Comme je l'ai dit, la loi sur la presse, notre loi actuelle, est le fruit d'une loi de 1959 qui a été retouchée en 81 et puis en 96, je pense. Et cette loi, dans l'aspect pénal, traite le journaliste comme n'importe quel citoyen. Il est dit ceci, que les allégations du journaliste peuvent être vraies ou fausses. Le problème du magistrat, ce n'est pas la véracité des faits allégués par les journalistes. C'est l'intention de nuire qu'il cherche. Et à ce moment-là, ça complique tout. Parce que lorsque vous avez mené des enquêtes, que vous êtes arrivé à la conclusion que M. X a volé, vous les qualifiez de voleurs, Le magistrat dit que c'est une intention de nuire parce que vous avez attenté à ça, à son honneur et à sa personnalité. Ce qui fait qu'il est rare aujourd'hui, même dans notre droit, de voir de hautes personnalités traduites en justice. Donc, au niveau de la loi elle-même, puisque c'est une loi calquée de 1959, comme je l'ai dit, on n'a pas donné vraiment toutes les possibilités pour que le journaliste soit à l'aise et pour que les enquêtes du journaliste servent au magistrat pour continuer.
Vous avez parlé de quelle loi exemple, du code pénal?
Oui, le code pénal congolais, dans ses articles 74 et 75, non, la loi sur la presse est calquée sur le code pénal congolais, dans ses articles 74 et 75, qui parlent de la diffamation, allégation mensongère et injure. Alors, tout ce que le journaliste fait, notamment dans l'investigation, le magistrat ne voit pas l'aspect du travail produit par le journaliste. Le magistrat voit l'intention de nuire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque moi, je publie des enquêtes, il n'y a aucun magistrat qui se sert de ces enquêtes pour poursuivre les gens. Parce que, dans la logique de notre droit, on cherche l'intention de nuire, mais on ne cherche pas à vérifier si les faits allégués sont vrais ou faux. C'est ça la grande difficulté d'abord.
D'accord. On va accueillir Maître Bachizi Mushizi qui est de nouveau en ligne tout à l'heure. Le temps d'accueillir un auditeur, Justin Defungurume. Des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Comment développer le journalisme d'investigation en RDC? Justin, vous êtes à Fungurume. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, et Justin?
Je précipite. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. En tout cas, c'est une tâche noble et difficile à digérer d'être un journaliste d'investigation. Pourquoi? Puisque dans notre pays, il y a tant de textes qui protègent, mais qui ne sont pas appliqués. Dans ce cas, je veux tout droit à dénoncer les dictateurs qui usent de leurs fonctions. S'ils voient que quelqu'un vient de dénoncer quelque chose, c'est lui qui va d'abord l'intercaler que ce journaliste n'arrive pas à avoir les informations sûres et certaines. Et quand il va passer à la divulgation de ces informations, c'est lui qui va donner les injonctions aux ayants droit de traquer un journaliste. Or, un journaliste, c'est un poltron, un civil qui n'a ni moyen de défense. Si celui qui a des moyens marche sur un journaliste, et carrément le journaliste est perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il y a deux poids, deux mesures. Ceux qui dénoncent, ce sont des ayants droit. Et ceux qui cherchent à divulguer pour démanteler des réseaux et qui ne portent pas un plus à la communauté, c'est toujours le même. Alors c'est à vous d'abord, aux autres, c'est à vous de donner la question aux gens qui détiennent cette force-là de démanteler ce genre de dictateurs, de respecter scrupuleusement les lois de la République.
D'accord, merci Justin. Oui, d'accord, merci Justin depuis Fungurume. Maître Charles Mushizi, vous avez suivi tout à l'heure, d'après Nikes, les articles 74 et 77 du Code pénal ne permettent pas aux journalistes de travailler en toute quiétude.
Pas particulièrement aux journalistes. En fait, le législateur a décidé d'ériger la diffamation, l'injure en infraction. Donc, c'est une infraction de droit commun dont tout le monde peut se rendre coupable et qui peut donc engendrer des poursuites à l'endroit de tout le monde, y compris du journaliste. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est la particularité, la sensibilité de la liberté d'expression qui est au centre de toute démocratie. Et nous n'avons pas suffisamment l'impression que tout le monde comprend cette particularité, cette sensibilité, au point de rendre la tâche facile aux journalistes. La question est là, d'abord, c'est une compréhension citoyenne du rôle des médias, du rôle des journalistes, de l'importance de la liberté de la presse dans une démocratie qui se construit. Et donc, il ne peut pas y avoir un débat ouvert, il ne peut pas y avoir le sens de redevabilité comme on le veut aujourd'hui, une honnêteté dans la gouvernance de la chose publique sans que ceux qui ont le pouvoir puissent être interpellés de temps en temps et de plein droit pour que, par la force des choses, la force arrête la force, comme on dit, pour qu'il n'y ait pas d'arbitraire et pour que tout le monde puisse contribuer dans la construction d'un développement plutôt pas d'une manière partagée. Ce que je voudrais plutôt souligner particulièrement, c'est la compréhension du constituant dans le droit à l'information et qui loge plutôt dans les articles 23 et 24 de la Constitution, qui Bel Beloka, que je connais, avait déjà fait mention de ces dispositions, mais qui permettent justement aux journalistes de pouvoir fouiller, trouver l'information dont tout le monde a besoin et la mettre sur la table publique. Lorsque le législateur affirme que toute personne a droit à l'information, il n'exclut personne. Il commence d'abord par les décideurs. D'ailleurs, il faut qu'ils le comprennent de cette manière-là, parce que c'est eux qui ont l'obligation d'élaborer des politiques publiques et de les mettre en œuvre. Ils ne peuvent pas élaborer des politiques publiques basées sur des évidences et s'ils n'ont pas l'information. Et donc, eux, ils sont les premiers à pouvoir avoir besoin de l'information recherchée par les journalistes et mise à leur disposition, mise à la disposition du public par les journalistes. Donc, il y a plutôt cette question qu'il faut comprendre de manière partagée pour que les animosités qui existent généralement entre décideurs et journalistes puissent cesser. Si les décideurs comprennent qu'ils sont d'ailleurs les premiers bénéficiaires de l'information, ils traqueront plus les journalistes, ils donneront libre accès aux sources publiques, surtout aux sources publiques de l'information.
Maître Nikes a parlé tout à l'heure de le magistrat recherche beaucoup plus l'intention des nuits, quelle que soit l'information.
Je n'irai pas jusqu'à affirmer cela en tant qu'avocat, parce que je sais que lorsque le magistrat instruit une infraction, il est lié par la loi, il n'est pas lié. Il arrive, c'est vrai que des plaignants riches ou puissants puissent insuffler un certain nombre de coups à l'instruction. Mais ce n'est pas à généraliser, c'est des cas qui peuvent être isolés. Ce qui est important à comprendre du point de vue du droit, c'est que le magistrat est lié par la loi. Et malheureusement, la loi est mal écrite sur ces questions parce que elle fait que le magistrat soit indifférent à la véracité comme à la fausseté des faits qui sont allégués. S'il pouvait y avoir un bénéfice de doute, un bénéfice de la vérité en faveur du journaliste qui amène une information qui s'avère être vraie, en ce moment-là, peut-être que le journaliste serait renvoyé de fin de toute poursuite. Mais malheureusement, la loi est très mal écrite sur ces questions-là et ne donne aucune possibilité aux journalistes de se défendre, même lorsque les faits sont vrais. Et c'est là peut-être qu'il faut rechercher la réforme. Elle a déjà été proposée en 2015 entre nous et un certain nombre d'experts du domaine. Malheureusement, le Parlement traîne à voter cette loi pour donner un peu plus de liberté aux journalistes à fouiller et à nous ramener l'information dont nous avons besoin, et particulièrement aux décideurs qui ont la charge d'élaborer les politiques publiques et de les mettre en œuvre.
Aujourd'hui, il y a plusieurs dossiers sur lesquels on peut investiguer, enquêter. Vous avez par exemple les tueries des Bénis. Les journalistes peuvent se mettre dessus pour déceler ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Nous avons les dossiers Kamuinan Sapou et autres. Mais beaucoup ne peuvent pas oser se lancer parce que c'est dangereux. La loi ne protège pas suffisamment les journalistes d'investigation.
Par-delà la loi, je crois qu'il faut commencer par réformer ce qui est plus souple, plus rapidement réformable, si vous me permettez le mot. C'est en fait l'université, notre système d'enseignement, qui nous renvoie des journalistes, plutôt des journalistes d'opinion, qui ne savent que donner des informations du type protocolaire, qui n'ont pas la capacité d'analyse des statistiques, qui n'exploitent pas les rapports, par exemple, de la Banque mondiale sur les chiffres, qui n'exploitent pas les rapports de l'OMS sur les tendances, etc. Aujourd'hui, on est par exemple dans un flou total sur le Covid. Je ne sais pas s'il y a des journalistes qui sont capables de s'asseoir et de faire une enquête pendant 45 jours, 2 mois, pour nous ramener l'information dont nous avons besoin. Tout le monde veut se ruer sur ce qui est sensible, ce qui est politique, ce qui est attaque personnelle. Et c'est cela, généralement, qui expose les journalistes. Il y a lieu d'informer autrement parce que le monde, le peuple a besoin d'informations. Autre que ce que nous connaissons déjà, les détournements, les vols, les viols, etc., nous avons besoin d'un autre angle d'analyse. Et cet angle d'analyse doit être insufflé par notre système d'enseignement supérieur et universitaire dans les facultés de communication et de journalisme. Et cela n'est pas suffisamment mis en œuvre. Et c'est ça qui, effectivement, donne malheureusement lieu à des journalistes plus ou moins critique par rapport aux individus et pas par rapport aux faits.
Bien. On va accueillir un auditeur de Mbandaka, Platini Mbombo. Bonjour.
Je dis bonjour, je suis tout le monde.
Quelle est votre question, Platini?
Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je crois que la thématique du jour nous réunisse en tant que les hommes de presse, comme les hommes des médias. Je suis le président avec vous, comme les intervenants du jour, avec le journalisme d'investigation. Je dis. Alors ici, moi, je veux parler dans l'article 6 de la Constitution, de la presse. Et je pense que la presse, c'est la carte du pouvoir, comme je dis, aussi, c'est une profession libérale, comme tout le monde le savait. Mais souvent, je décide de peu à arriver un peu après, alors que j'ai suivi l'auditeur qui a parlé, c'est pour le magistrat qui cherche à faire l'information en deux, ce qui est fait. Mais souvent, au niveau de la presse nationale, moi, je pense que même question des partis, même si c'est surtout aussi dans la vie de Mandaka le Corsair, il se pose un sérieux problème. C'est que les journalistes de réputation. Vous pouvez annuler l'émission, mais souvent, vous ne pouvez pas arriver à capturer toute l'information. Vous pouvez déjà annoncer de vous dire à tel jour, à tel jour, je vais conclure mon émission, avoir tous les éléments. Mais souvent, si on arrive à investir et à chercher, peut avoir acquis des droits de ramasser cette information, là, ça peut se faire. Si vous voulez,
la communication n'est pas très bonne. On vous écoute difficilement, Platini, désolé. Je vais donner la parole à Nikès Kibel. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour développer ces genres journalistiques en RDC.
C'est comme l'a dit Maître Charles. Mais il faut d'abord du courage. Du courage au niveau de... D'abord, il faut que le journaliste soit formé, soit suffisamment formé et professionnel. Parce que n'importe qui, c'est pas n'importe quel journaliste qui peut faire l'investigation. Et il faut du courage et la détermination. Mais le journalisme d'investigation se base sur les faits. Et il faut investiguer sur les faits. Et les faits peuvent amener aux individus. Donc, même au niveau de l'enseignement du journalisme, il faut inculquer, il faut donner des cours sur ce journalisme d'investigation. Parce que quand vous regardez dans la filière de formation, généralement, on ne le fait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de journalistes dans les radios. Je ne dis pas que dans les radios on ne fait pas l'investigation, mais on court plus derrière le temps, si bien que le travail de durée, de longue haleine, le journaliste qui est très pressé, qui accompagne les hommes politiques, n'est pas en mesure de les faire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que lorsque le journaliste d'investigation publie, ceux qui sont cités dans ces recherches recourent encore à d'autres journalistes pour venir détruire tout ce que le journaliste a mené pendant 1, 2, 3, 4 années. Donc ça aussi c'est un problème. Bref, il faut d'abord que dans la filière de l'enseignement, qu'on insère cela. De deux, il faut que dans ce qu'on appelle le renforcement des capacités qu'on forme des journalistes dans cette investigation. Nous le faisons, malheureusement, il faut des sponsors pour le faire, et il faut aussi pour les journalistes qu'ils sachent que le travail de l'enquête, le travail d'investigation, c'est un travail, c'est un processus, c'est un travail de longue haleine. On ne fait pas l'investigation en un jour ou en deux jours, sinon c'est une investigation bâclée.
Voilà. Aujourd'hui, Nikès, il y a plusieurs sujets sur lesquels on peut organiser des investigations. Prenons par exemple les cas des tueries récurrents dans la ville de Bémi et dans la région, en Ituri et ailleurs. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible que les journalistes se mettent dessus et puissent enquêter, parce qu'il y a toujours, selon les informations reçues, des gens qui tirent les ficelles. Il y a des implications à gauche, à droite. D'ailleurs, vous avez déjà eu à travailler une fois sur la question des djihad en RDC.
Oui, naturellement. Il faut que les journalistes s'invitent. Il ne faut pas qu'on les invite. Il faut qu'ils s'invitent par les événements, par les faits qui se passent. Et je vous ai donné l'exemple. Lorsque, par exemple, j'ai mené les investigations sur l'insécurité à Bine, je vous dis que c'était du courage pour demander l'audience au niveau du chef d'état-major général, Didier Toumba à l'époque. J'ai été devant 9 généraux à qui j'ai expliqué. Donc c'est pas facile. Même lorsque il y a eu le procès de la Cour militaire opérationnelle, mais des avocats ont demandé qu'on m'arrête simplement parce que les informations, les faits que j'ai donnés dans les livres poussaient le militaire général à arrêter des gens. Donc il faut que les journalistes vite à travers les faits et qu'ils soient objectifs. Effectivement, notre pays, c'est un vivier de l'investigation. Nous avons légué l'investigation aux experts. Les experts qui arrivent, ils viennent pour 2 jours, 3 jours. Or, dans les principes de l'investigation, par exemple pour les sources, la confrontation des sources, vous devez revenir à la même source même 3-4 fois. Mais si l'expert arrive, il fait 2 jours, il part. Il ne peut pas confronter ce que la source lui a dit 2 ou 3 fois, 4 fois. Or, nous qui sommes sur le terrain, donc les journalistes congolais qui sont sur le terrain, où il y a autant de défis, autant de problèmes, il a tout le temps de vérifier ce que la première source lui a dit, de confronter avec d'autres sources. Donc, il faut effectivement que le journaliste congolais s'approprie l'investigation pour arriver à pousser les décideurs à changer le fusil d'épaule. Si nous ne le faisons pas, nous aurons simplement des experts qui viendront, ils feront des rapports. Et les rapports d'experts, vous savez, ne sont pas. Les experts sont muets quant à des personnes qui leur donnent des informations. Et ça devient difficile de vérifier. Vous connaissez ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo à la CPI, où pratiquement le procureur s'est retrouvé sans preuve. Parce que l'investigation se base sur les faits. L'investigation se base sur des preuves. Des preuves, il faut les prendre parce que le lendemain, si vous devez et vous publiez votre investigation, vous allez vous fonder sur des faits. Et les faits restent comme ça, les faits sont des constats, les faits sont difficilement détruisables.
Bien. Et comment protéger les journalistes? Par exemple, si vous dénoncez des réseaux, des mafias, et toutes ces personnes se sentent en danger et peuvent vous attaquer.
C'est ça le risque du métier. D'abord, le journaliste qui fait l'investigation, c'est un homme discret, un homme qui ne parle pas en l'air, qui choisit, qui fait le travail dans la discrétion la plus totale. Et pour éviter d'abord que les ennemis, que les gens sur qui il investigue ne puissent lui mettre les bâtons dans les roues. Le risque du métier, c'est pourquoi j'ai dit au départ que c'était un journalisme décourageux. N'importe qui ne peut pas le faire. Et comme nous disons, la loi ne protège pas les journalistes, mais c'est un problème de conviction, parce que lorsque vous entrez dans une enquête, vous découvrez des choses, vous avez la chair de poule, ça devient comme de la passion, donc vous avez vous avez pratiquement l'idée d'aller jusqu'au bout. Et vous allez jusqu'au bout, vous publiez, les risques, ce sont des conséquences que vous devez supporter. Bon, bien sûr, personne ne peut accepter qu'on les tue, mais si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne peut le faire à notre place. Donc, les risques existent. C'est comme dans tous les métiers, il y a les risques. Mais nous disons toujours, vous mourrez le jour où Dieu a choisi pour vous de mourir. Et la mort qui viendra peut ne pas être celle en provenance de votre profession. un véhicule peut vous écraser, ça n'a rien à voir avec votre métier.
Bien.
Donc nous devons avoir du courage et surtout de la persévérance pour affronter ces défis-là. C'est vraiment un défi majeur pour notre pays.
Bien, on va accueillir un auditeur. Bienvenue de Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question? Merci. Bienvenue.
Oui, j'ai une préoccupation à propos de ce sujet. En fait, le journalisme d'investigation, c'est bon. Mais ce qui est là, surtout dans notre pays, on constate qu'il n'y a pas une protection, il n'y a pas la protection des journalistes. On a constaté même ici à Bounia, qui est un journaliste qui se lance dans l'investigation, après quelques jours, on constate sa disparition. Par exemple, il est Kanjabo, il était disparu comme ça, il est mort, et puis après quelques jours, on a retrouvé son corps. Ça, ce sont des choses que notre gouvernement doit prendre en compte, parce que même si c'est le travail, mais il faut que ce travail puisse être garanti. Et puis la protection des civils, c'est quelque chose qui est constitutionnel. Mais notre pays ne protège pas souvent les journalistes et puis nos politiciens. Une fois qu'il y a une investigation qui se fait au niveau de quelque chose peut-être de l'administration, vous allez constater que les politiciens là directement ils commencent des menaces avec des journalistes. C'est ça ce que j'ai constaté, qui fait que aussi les journalistes puissent craindre de faire le journalisme d'investigation. Parce que par exemple, avec la situation qu'on est en train de parcourir aujourd'hui en Ituri, une fois que vous dénoncez, une fois que vous dites quelque chose, vous allez voir, il y a des tribus peut-être des dénonçables qui vont s'attaquer avec vous, il y a des autorités civiles ou tout comme militaires qui vont commencer à s'attaquer avec vous. Et une fois, vous n'êtes pas protégé, comment est-ce que les journalistes peuvent avoir du courage de continuer de faire ce travail? Vraiment, notre gouvernement a le grand travail de faire à ce qui concerne la liberté d'expression. Et s'il y a des gens qui cherchent à s'exprimer, vous allez voir tantôt le même gouvernement qui parle de la liberté d'expression est en train aussi d'étouffer la population.
Merci.
Pour que la population ne puisse pas réclamer.
Merci, bienvenue. Maître Charles Mouchizi.
Bon, moi je crois qu'en termes de protection, il faut commencer à relativiser parce que la loi ne peut être que générale, impersonnelle et contraignante. Il ne peut pas y avoir une loi particulière pour les journalistes et une loi particulière pour le reste des communs, pour le commun, les autres qui ne sont pas journalistes. Et donc, punir autrement la diffamation à l'égard des journalistes par rapport au reste des autres citoyens créerait un arbitraire. Je crois qu'il faut commencer à se mettre en tête que la loi a ces trois caractéristiques impersonnelle, générale et contraignante à l'égard de tout le monde. Ce qu'il faut systématiser ici, c'est plutôt la qualité de journaliste que nous avons et la qualité du journalisme qui nous est présenté. Et tout cela vient d'abord de l'école qui les produit, mais aussi de la corporation qui a du mal à gérer la profession. Il n'est pas interdit qu'il y ait plusieurs types de journalisme dans la société. Et chacun peut choisir d'exercer le type de journalisme qui lui convient selon ses compétences et plutôt la vocation qui est professionnelle qui se donne. Mais ceux qui choisissent de devenir journaliste d'investigation doivent d'abord avoir cette formation à l'université. Hein? Il est très important qu'ils aient cette formation parce qu'à l'issue de chaque cours à l'université, on organise toujours des travaux pratiques. En ce moment-là, ils viendront dans la profession avec un background qui leur permet d'affronter justement l'exercice de terrain. La recherche de terrain, elle est aussi difficile, elle est beaucoup plus difficile que le fait de venir tendre le micro à votre source et de répéter à peu près ce qu'il vous a dit dans votre papier. Le travail de recherche sur terrain, il est beaucoup plus rigoureux et il exige beaucoup plus de discipline en termes de consignes sécuritaires, de consignes de respect, de savoir conserver les données des techniques de conservation de données, etc. Et donc, si nous pouvons avoir déjà de bons noyaux venant de l'université, coachés sur le journalisme d'investigation avec toutes ces techniques et qui ont fait des travaux pratiques, nous pouvons commencer à espérer que nous avons une nouvelle classe de journalistes qui vont nous produire plutôt des données et pas des faits et pas des opinions.
Maître, dernièrement, il y a un journaliste qui a été interpellé pour avoir donné des informations sur la solde des militaires. Il a fait des déclarations de ce genre-là. Est-ce qu'il y a certaines restrictions par rapport à ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit?
Je crois qu'il y a deux choses à relever ici. Et d'abord, la loi pénale, le code pénal militaire punit toutes les infractions qui ont tendance à décourager ou à démoraliser les forces armées. Et on sait combien il y a des disparités dans le traitement salarial dans notre pays et combien le militaire le plus ordinaire est moins préféré et moins bien payé par rapport aux autres classes politiques, ministres, vice-ministres, parlementaires, généraux, etc., des hauts gradés qui sont un peu plus proches du chef de l'État ou de tel ministre, etc. Il y a de l'injustice salariale et ça c'est connu. Mais ça ne sert à rien de le crier sans se dire qu'on s'expose à quelque chose de beaucoup moins irrationnel, exactement comme ça se passe chez... Les dénonciations ne peuvent pas être au cœur d'un journalisme. Si un journaliste n'a que des dénonciations à faire, il doit alors accepter de faire face à cette résistance des dirigeants népotistes qui ne tolèrent pas la critique. C'est vrai que je ne les découragerai pas à faire leur travail, mais je les inviterai plutôt à savoir faire un travail tout en connaissant les risques qui sont attenants à ce travail. Ce qui est important, à mon avis, c'est de penser, de réfléchir en termes de réformes institutionnelles et de réformes des lois. Et sur le plan institutionnel, je vois d'abord ces interventions intempestives du ministère des médias qui, lui, devrait avoir en charge la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de liberté d'expression et non pas en termes de répression de journalistes. Je vois le rôle que devait jouer le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de la communication, dont à qui la loi attribue justement l'obligation de protéger la profession et de la développer. Et donc, il y a d'abord cette confusion qu'il faut lever entre les dispositions légales qui créent la confusion entre les attributions de ces deux institutions. Puis alors, sur le plan, on peut dire aussi institutionnel, infra-institutionnel, peut-être, faire en sorte que la corporation de journalistes commence à fonctionner de manière correcte pour qu'elle soit un rempart aussi pour ceux qui peuvent se plaindre de la qualité journaliste ou du comportement des journalistes qui violent l'éthique et la déontologie. Et on peut en même temps coupler toutes ces réformes avec la réforme de la loi du 24 juin 1996 qui effectivement porte beaucoup de germes de dictature, de népotisme, et qui ne protège pas assez le journaliste pour ce qui est de la véracité de l'information qu'il met à la portée du public.
Les journalistes ont toujours demandé la dépénalisation du délit des presses, mais cela n'arrive toujours pas.
Cela est déjà bien logé dans le projet de loi que l'honorable Mouchizi, à l'époque, avait déposé à l'Assemblée nationale en 2015. Et l'honorable Mouchizi, qui est en fait un ancien journaliste, prévoyait déjà de systématiser, d'opérationnaliser ce concept en lui donnant un contenu compréhensible partout et acceptable partout. Ce texte qui a été déposé en 2015 par l'honorable Mouchizi est beaucoup plus clair sur cette question, avec la valorisation de l'Observatoire des médias congolais, la valorisation de l'UNPC, la valorisation du CESAC et... la création d'une certaine désescalade des attributions dans le chef du ministère en charge des médias qui devait lui se cantonner à mettre en œuvre les politiques gouvernementales du secteur et pas à interférer dans le fonctionnement des médias ou dans les interactions du secteur.
Comment développer le journalisme d'investigation à RDC? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service des questions et préoccupations. Composez les 081-890-63-94.
Recherchons et protégeons l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions et mesures prises à son égard. Cela pour sauvegarder et privilégier à tout prix ses droits en considération de ses différents besoins moraux, affectif et physique.
Ceci est un message des Nations Unies relayé par l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme, la jeune et petite fille, et une structure du ministère du Genre, Famille et Enfants.
Comment développer le journalisme d'investigation? Kachai, vous êtes à Kanyoka, bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Nous, là, aujourd'hui, quand nous sommes bien informés, aujourd'hui, quand nous suivons des belles émissions que vous vous animez, c'est parce que vous existez. Et vous avez cette volonté-là, là, pour de nous informer et de nous tenir au clair de tout ce qui se passe à travers le pays et à travers le monde. Mais à des fois, dans votre métier, vous êtes frustré par les politiciens, monsieur Jody, surtout ici, en République démocratique du Congo. Quand vous faites un travail de titan pour donner de la lumière sur ce qui est flou, en tout cas, l'État s'empare à vous et vous étouffe pour que vous ne puissiez pas mener à bon escient les investigations. Je donne seulement un cas précis ici, monsieur Jody. Une journaliste de la RFI, j'ai cité Sonia Roney, avait mené des investigations sur la tuerie de deux experts de l'ONU,
oui,
à Moyo-Moussila, dans les territoires de Dibaya. Les procès ont commencé depuis très longtemps. Dieu merci.
Elle a été invitée à ce procès d'ailleurs.
Elle a été invitée, c'est ça. Elle a été invitée, monsieur Jody, pour qu'elle puisse donner des renseignements sur ces investigations. Mais il y a eu d'abord des échos. Le procès lui-même ne savait pas bien dérouler parce qu'il n'y avait pas des informations, bonnes informations mises à la connaissance, ou soit portées à la connaissance du tribunal ou de la cour. Voilà maintenant, comme elle a travaillé, elle a investigué, elle a mené de bonnes recherches, actuellement la justice est éclairée. Dans notre pays, monsieur Jody, d'abord, vous savez que, bon, je ne sais pas, en dehors des journalistes de la radio Okapi qui sont un peu payés, qui ont signé les contrats, je ne sais pas si d'autres journalistes sont aussi payés comme vous, monsieur. Je ne sais pas. Ça, c'est un. De quand vous n'avez pas un salaire, monsieur Jody, vous pensez que vous allez bien travailler. Quand vous donnez des informations contre l'action de certains policiers, on vous embête, on vous inquiète, on vous étouffe. On vous fait arrêter et donc il y a toujours des situations pareilles.
D'accord. Alors pour terminer, quelle est la question que vous adressez aux invités?
La question maintenant, c'est celle que je vais poser à l'invité. Mmh. Parce que nous avons déjà remarqué, quand nous émettons des avis, surtout sur la radio au papier comme ça, les pouvoirs de Kinshasa ne les considèrent pas. Alors ceux-là que vous invitez peuvent porter cette parole auprès des instances de prise de décision.
D'accord.
Est-ce qu'il y a-t-il moyen,
oui,
d'abord? Y a-t-il moyen qu'il y ait une loi portant protection des journalistes dans tout ce qu'ils peuvent faire?
Merci Kachai. Merci Kachai. Nikez, on n'a plus beaucoup de temps. Nikez, vous avez la parole.
Oui, merci. Je reviens un peu sur ce que Maître Charles a dit à propos de la question que vous lui avez posée. Effectivement, quand vous lisez la loi sur la presse, dans ces articles, je n'ai pas la loi sur moi, je pense 78, 79, 77, 78, 79, il est dit que tout journaliste, par ses écrits ou par sa voix, incite les militaires à commettre des crimes ou à la démoralisation et condamné pour haute trahison. Donc ça aussi, les journalistes doivent savoir. Lorsque nous prenons des images, nous balançons des images des corps des militaires mutilés, tout ça, nous ne voyons pas, nous ne nous rendons pas compte de ce que la loi dit. Autre chose, un journaliste professionnel, lorsqu'il a une information, il la vérifie. Ça, c'est très important. Maître Charles a insisté sur la qualité du journaliste. Le journaliste ne peut pas, parce que tel lui a dit, il ne sait pas dans quelles conditions tel citoyen lui a donné une information, qui peut être aussi une manipulation consciente, le journaliste balance l'information. Bon, à propos des salaires, comme l'a dit Maître Charles, tout le monde sait, de l'enseignant, de l'huissier, tout ça, les salaires. Est-ce que le militaire qui est au front a besoin qu'on lui rappelle qu'il touche 20 dollars, par exemple? Donc, les opportunités aussi comptent pour donner une information. Donc, bref, pour ça, la presse doit savoir que, dans la loi qui nous régit, dans ces articles 76, 17 et 18, nous sommes accusés de haute trahison quand nous démoralisons les troupes au front. Et là aussi, pour un journaliste congolais, il doit jouer sur le patriotisme. D'abord, lorsqu'il a reçu une information sur les militaires, il interroge les autorités, la hiérarchie militaire. Si la hiérarchie ne répond pas, pratiquement, il peut dire que la Chine n'a pas répondu. Parce que c'est un domaine très sensible. La vie d'une nation dépend des services de défense et de sécurité. Ça, c'était une parenthèse. À propos de notre ami de Kananga, effectivement, ce qu'il dit est vrai. Une loi sur la protection des journalistes, la première protection de n'importe quelle personne, c'est d'abord soi-même. Et les journalistes d'investigation doivent se protéger d'abord dans la discrétion, je l'ai souligné, dans la discrétion du travail. Un journaliste ne peut pas d'emblée dire aux gens, je vais investiguer sur tel sujet. Là, il est en train de s'exposer. Il doit le faire de façon professionnelle. De telle sorte que même s'il est devant la justice, il donne des faits qui prouvent qu'il a effectivement mené des investigations. Mais il se pose aussi un problème. Est-ce que tous les magistrats ont des notions de l'investigation? Parce que si, par exemple, j'investigue sur le terrorisme, est-ce que le magistrat devant qui j'ai été traduit a des notions de l'investigation du terrorisme ou du blanchiment d'argent? Donc, là aussi, c'est un problème. Il faut qu'on forme non seulement des journalistes de qualité, mais il faut aussi des magistrats dans des domaines spécifiques.
Oui.
Des domaines spécifiques, nous avons en France, par exemple, des juges antiterroristes. Est-ce qu'en RD Congo, nous avons des juges antiterroristes? Nous n'en avons pas, à mon avis. Si on ne le forme pas, si on amène un journaliste qui a investigué sur le terrorisme, comment il peut le juger? Dernièrement, j'ai été même conduit à l'auditorat militaire. Devant l'auditorat militaire, je l'ai expliqué.
Oui.
Moi, j'ai fait comme journaliste d'investigation. Oui. Donc, vous comprenez aussi que même dans les choix de la personne qui porte plainte contre le journaliste, il fait de l'amalgame. Elle fait de l'amalgame. Donc, il faut protéger les journalistes. Maître l'a dit, d'abord la loi, il faut réformer cette loi qui date de 1959 et qui a les germes de la dictature, qui a les germes pratiquement de la lutte contre la liberté d'expression.
Il y a aussi la formation des journalistes. Les écoles de journalisme doivent de plus en plus former des journalistes d'investigation.
Effectivement, les écoles de journalisme doivent s'adapter aux situations. Il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, avec un vivier de problèmes, qu'il n'y ait pas de journalistes d'investigation, que des Occidentaux viennent investiguer à notre place. C'est une injure à tout l'enseignement qu'on donne aux journalistes, à toute la profession du journaliste, parce qu'il est anormal. Et vous voyez des journalistes qui sont tués. Mais prenons même le cas des journalistes de Radio Okapi qui ont été tués. Est-ce qu'on a mené des investigations? Parce qu'il n'y a pas de journalistes d'investigation. Donc il faut que les écoles de journalisme puissent insérer cette branche ou cette voie d'investigation. Et puis le problème de dire qu'il faut nécessairement un professeur, je l'ai dit toujours même dans l'écriture journalistique, si vous enseignez en français, mais si vous prenez un professeur de grammaire française et de l'école secondaire, mais il maîtrise mieux la langue française que peut-être un professeur d'université, je dis dans la presse écrite,
oui,
par exemple.
Oui.
Donc on doit créer notamment des structures pour former les journalistes d'investigation. Sinon, on ne fera que produire des journalistes d'accompagnement des hommes politiques, des journalistes qui sont derrière les ONG, des journalistes qui font des reportages. Bon, le reportage n'est pas interdit.
Nikaise,
aurons des journalistes qui ne sont pas professionnels dans tel ou tel autre domaine.
Nikaise, pour terminer, vous avez suivi dernièrement par rapport au procès du meurtre des experts des Nations Unies dans les Kassai. Il y a Sonia Rollet, des RFI, qui a été entendue. Est-ce que il vous arrive aussi d'être interpellé de cette façon-là pour témoigner devant les juges?
Par exemple, pour le procès de la Cour militaire opérationnelle, la Cour s'est servie du livre que j'ai produit. Mais lorsque les avocats ont demandé au premier président de la Cour militaire de m'interpeller comme renseignant, le premier président a dit non. Et il avait suffisamment d'éléments. Mais il y a des journalistes qui ont comparu comme renseignants. Nous avons par exemple notre confrère Wema Kennedy qui a comparu comme renseignant, il y a John Kanyunyu qui a comparu comme renseignant. Ils ont donné des éclaircissements sur ce qu'ils savaient.
Nikaise.
Ils ont été relâchés.
Nikaise, on n'a plus beaucoup de temps. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Le sujet est très intéressant. Je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation et directeur du journal Les Coulisses. Nikaise Kibel-Beloka. Et nous disons merci à Maître Charles Mouchizi d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Merci à vous et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bien, on se retrouve juste après les informations pour la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service.